qu'est-ce que va vous donner Dieu dans le mariage? Eh bien, lui, il va vous promettre de vous accompagner pour que vous aimiez et que vous aimiez les enfants qu'il vous donnera, s'il vous en donne. Parce qu'un enfant, c'est toujours un miracle. C'est vraiment un miracle, hein. Il n'y a pas d'enfant qui soit créé par Dieu sans qu'il le veuille. Même si cet enfant est malade, c'est une personne humaine. Et vous voyez, pour reprendre Mère Teresa, elle a commencé ses hospices en demandant aux hôpitaux les enfants rejetés par les hindous comme maudits dans leur karma. Et Mère Teresa, elle disait, ces enfants qui étaient malades, qui étaient atrophiés, qui étaient hydrocéphales, qui étaient, elle les aimait parce que c'était des enfants de Dieu. Ils étaient malades, ils étaient pas beaux à regarder pour certains, mais elle les aimait. Est-ce que vous connaissez ce film Bienvenue à Gattaca? Oui. C'est un monde où on a fait l'euthanasie absolue. Et même les myopes sont détectés dans les diagnostics pré-implantatoires ou autres, et ils sont avortés. Il faut être parfait. Et on y arrivera si, dans l'Apocalypse, théoriquement, le règne de l'Antéchrist, ça sera quasiment ça. On sera tellement persuadé qu'il faut être heureux dans la santé et la prospérité, qu'on éliminera tous les malades et tous ceux qui échouent financièrement. Et ça sera une merveilleuse société. Eh bien, la vérité, c'est que tout enfant, et alors ce qui est pénible, hein, par contre, hein, c'est même un enfant qui va mourir au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois. Tout être humain. Et ça, c'est le plus difficile à admettre. Vous nous parlez d'une religion d'amour. Mais comment ça se fait qu'un petit enfant qui meurt au bout de 2 mois, au bout de 5 mois, dans le ventre même de sa mère? Comment Dieu peut-il permettre ça? Et c'est pour ça que j'ai commencé par la maladie. Pourquoi plus admettre, d'ailleurs on ne l'admet pas, la mort d'un enfant d'un an ou de 6 mois? Parce qu'on en est encore aux païens, on est encore à reprocher à Dieu de ne pas être en bonne santé et de ne pas être riche ou de ne pas avoir des tremblements de terre, de ne pas avoir des éruptions volcaniques et de supplier Dieu de vivre heureux sur terre, tranquille. Tandis que Jésus, lui, nous dit « Votre bonheur sera dans l'amour que vous vous donnerez les uns aux autres, quelles que soient les épreuves de votre vie. » Ah, c'est facile à dire, hein. Eh bien, le mariage, c'est Jésus qui s'engage vis-à-vis de vous d'une manière particulière. Il y a 2 manières. Il y a le mariage naturel et le mariage sacramentel. Le mariage naturel, c'est tout être humain est aimé de Dieu. Et toute union entre un homme et une femme signifie l'amour de Dieu. Jésus est l'époux des noces de Cana. Le maître de festin dit: c'est extraordinaire, tu as réservé le meilleur vin pour la fin. Mais il dit ça au couple qui vient juste de se marier. Vous voyez, l'époux et l'épouse, ils sont là. Tu as acheté du très bon vin pour la fin du repas. Mais de fait, hein, le maître du festin, lui, il croit que c'est du vin qui a été préparé. Mais c'est une prophétie, c'est une réalisation prophétique. En fait, c'est une louange qui est adressée à Jésus. C'est le repas des noces. Mais quelles sont ces noces? Quel est ce mariage? Mais c'est Jésus qui épouse la nature humaine. C'est Dieu qui se fait homme. Que vous vouliez ou non, la vraie religion, c'est Dieu qui se fait petit bébé et qui grandit au milieu de ses créatures et de ses frères et de ses sœurs. C'est ça la vraie religion. D'ailleurs, est-ce que nous ne sommes pas tous des enfants? Est-ce que nous ne sommes pas tous des frères et sœurs de quelque manière? C'est un fait. Et même si les familles se sont éloignées sur des siècles, et les peuples se sont différenciés, et que certains ont eu telle forme de visage, telle couleur de peau à travers les siècles, nous sommes tous issus d'une même souche. Ça, c'est l'enseignement biblique. Mais dans une défense plus ou moins adroite ou maladroite de la religion biblique, c'est de vous dire, en essayant de trouver des arguments scientifiques, c'est notre sang, c'est notre ADN. Il est exactement identique entre Chinois et Africains. Exactement. Il y a quand même quelque chose qui doit nous interroger. Eh bien, voyez-vous, le mariage, un des disciples de Jésus, qui au début n'a pas du tout accepté la divinité de Jésus, c'est Paul, saint Paul, qui était un juif observant, extrêmement intègre. Mais pour lui, que Dieu se fasse homme, c'était un blasphème. Vous avez l'imam de la mosquée qui est de Paris, qui est un peu libéral par rapport au monde musulman actuel, le docteur Boubaker, que vous connaissez peut-être, qui a été médiatisé, il a fait un petit livre de théologie musulmane. Et pour lui, donc, la Trinité, c'est une, comme dit le Coran, c'est une association de créatures à Dieu. Jésus ne peut pas être Dieu. Et il dit que manger Dieu, quand Jésus dit « Celui qui mangera ma chair et boira mon sang, je serai avec lui pour la vie éternelle. » Et Boubaker, d'une manière très sincère, dit « Pour nous, c'est un horrible blasphème. » C'est une intimité avec Dieu qui est impossible. Le musulman, c'est le soumis à Dieu, au tout-puissant miséricordieux. Mais on ne peut pas être le frère de Dieu. On ne peut pas être l'enfant de Dieu même. Et Dieu ne peut pas être uni à l'humanité. Ce n'est pas possible. Nous sommes des hérétiques, nous sommes des fous. Et quand bien même sans guerre politique, intérêt pétrolier ou autre, un musulman et un chrétien parlent de théologie ensemble, à un moment donné, la vraie opposition entre musulmans et chrétiens n'est pas une question de croisade, de défense des lieux saints ou d'intérêt économique contemporain. C'est l'incarnation. Et après l'incarnation, la mort de Jésus. Parce que pour eux, Jésus est un prophète. Il n'est pas Dieu. Et il a été subtilisé avant la croix. Un ange a pris une apparence humaine et a fait semblant de faire croire que Jésus a été mort sur la croix. Et Jésus a été préservé jusqu'à la fin des temps, où il reviendra vaincre le Jahal, l'antéchrist, à la fin des temps. Vous voyez, c'est bien imité. Mais pourquoi ? Parce que Jésus n'est pas Dieu et sa mort n'est pas méritoire, elle n'est pas d'un mérite infini, puisqu'il est innocent et Dieu. Il refuse la mort rédemptrice, la mort qui rachète les péchés. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas s'abaisser à pardonner les hommes en se laissant tuer par ses créatures. C'est indigne de Dieu. Vous comprenez pourquoi ? Il y aura toujours un problème entre les musulmans et les chrétiens. Pourtant, on est monothéistes, hein, mais eux n'admettent ni l'incarnation, ni la mort qui rachète les péchés. Eh bien, dans le mariage, il y a le mariage de tout être humain, et qui est un signe de l'amour de Dieu. Mais le mariage des baptisés est un signe direct un sacrement. Quand vous vous mariez, vous signifiez l'amour de Dieu pour l'humanité. Et que vous le vouliez ou non, alors là c'est un peu macho, hein. L'homme représente le Christ et la femme représente l'humanité. Ah oui. L'homme est le principe masculin et la femme est le principe féminin. Excusez-moi, hein, La femme doit faire attention à ne pas aller directement contre la domination violente du péché de l'homme. Et l'homme doit abandonner sa domination hautaine pour aller jusqu'à se sacrifier pour sa femme et mourir pour elle. Ce qui est extrêmement courtois et extrêmement galant. Oui. D'où l'amour courtois, hein, attention. Hein. Vous savez, le christianisme a assoupli profondément la nature humaine. Allez en Afghanistan, vous verrez, c'est pas le cas. Oui. Avant qu'un homme meure pour sa femme, il se passera au moins un troupeau. Donc, dans l'épître de saint Paul sur le mariage, il est dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». On n'a pas encore changé le mot, puisque le mot maintenant est devenu extrêmement péjoratif. Donc, c'est incompréhensible de nos jours quasiment. C'est pas une question de soumission, c'est une question « Ne vous opposez pas à la domination excessive de votre mari. » Comme saint Paul dit aux parents, n'exaspérez pas vos enfants. Comme saint Paul dit aux enfants, ne vous révoltez pas contre votre parent. Et saint Paul essaye de faire comprendre à chacun, suivant sa position, suivant son être, comment atteindre l'harmonie et la charité. Eh bien, le sacrement de mariage, c'est tout ça. C'est le couronnement du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Oui. Chez les non-baptisés, le mariage est indissoluble. Ils n'ont peut-être pas les grâces particulières par la connaissance pleine et entière l'histoire du salut et de l'amour de Dieu, mais en tant qu'homme, en tant que femme, ils doivent accomplir ce qu'ils savent en conscience. Et en conscience, tout homme, toute femme doit savoir qu'ils doivent s'aimer et accueillir les enfants et les éduquer avec amour et avec vérité. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes non baptisées qui sont un peu douchées, qui se marient avec une personne non baptisée, qui divorce et qui tombe amoureux d'un catholique ou d'une catholique. Il dit ben, je me remarie. Je ne m'étais pas marié religieusement, je m'étais marié qu'à la mairie. Et là on leur dit, mais attendez, en tant que non baptisé, vous n'étiez pas obligé de vous marier à l'église. Vous êtes marié à la mairie. Ben, oui, mais ça compte pas pour vous. Ben si. Parce que c'est un mariage humain, social, public. Mais quand même, moi je suis musulman, je me suis marié avec une musulmane. Vous ne considérez pas notre mariage? Mais si. Je me suis marié avec une deuxième femme. Est-ce que vous considérez mon mariage? Ah là oui, c'est vrai. Non. Le deuxième mariage manque de charité. Il est tenu par son premier mariage. Eh bien, je crois que vous êtes tous baptisés. Quelqu'un n'est pas baptisé ici? Donc, au nom de votre baptême, vous ne pourrez rien faire contre votre mariage. Vous devrez accomplir l'amour le plus parfait. alors c'est le moment de renoncer. Mais bon, finalement, mariage civil, c'est pas si mal. Bon, c'est pas un vrai mariage, non, c'est pas un vrai mariage. C'est fiscal, c'est social. Ça a une signification d'union des patrimoines et de certaines. Mais c'est pas le signe où vous devez quand même vous douter qu'il y a peut-être quelqu'un au-dessus de vous. Et que c'est un engagement qu'on fait pas seulement d'un niveau terrestre. Si vous voulez vous marier à l'église, il faut que ça soit un peu surnaturel. C'est pas, on est en 2018. Normalement, c'est pas ni votre grand-mère, ni votre grand-père, ni votre maman, ni votre papa qui vous ont poussé à vous marier à l'église. Vous devez être normalement un peu religieux. Au moins superstitieux, je sais pas, vous avez. Non? Vous avez pas peur que si vous péchez trop, vous allez. Le bon Dieu va vous punir, non? En tout cas, ça, les païens le pensent très très fort. Mais pourtant, voyez-vous, c'est pas le critère. Le critère de l'amour de Dieu, c'est de vous demander d'agir en conscience tout le long de votre vie. Alors il y a une chose par contre qui va impressionner votre mariage, c'est si vous avez un enfant. Et là Dieu veillera à cela. Il vous demandera des comptes. Parce qu'avoir un enfant, c'est vraiment une très grande responsabilité. C'est l'aimer cet enfant. Et comment on aime un enfant, on fait tous ses efforts, malgré la faiblesse humaine, et je ne jette pas la pierre à ceux qui se séparent, hein. Eh bien, il y a quelque chose de très fort, hein, dans le fait que l'homme et la femme soient présents pour leur enfant. On peut s'en sortir avec des parents qui ont divorcé, bien sûr. La nature humaine et l'amour de Dieu pour toute âme est très forte et au-dessus de toutes nos épreuves. Mais vous avez une responsabilité bien particulière. Et décidément, hein, je vous mets la pression, c'est affreux. C'est ça le mariage chrétien, oh mon Dieu. Bon, on va passer aux questions de Psychologie Magazine, mais avant, avez-vous des questions? Quand même. Ce n'est pas parce que je réponds à toutes les objections possibles et imaginables avant que vous les posiez. Où en suis-je dans ma vie de prière? Est-ce que je crois en Dieu? Vous savez que Dieu sait tout et que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit de particulier pour parler à Dieu. Il suffit que vous pensiez, que Dieu connaisse votre pensée. Dieu sait tout. Vous ne pouvez rien lui cacher. Et tant mieux, parce qu'il vous aime. Quand vous comprendrez que Dieu vous aime, mais que Dieu veut de vous la vérité, la sincérité profonde, alors vous prierez encore mieux. Les païens prient. Les païens ont peur de Dieu. Donc ils lui parlent. Hein. Oh, j'aimerais que mon restaurant marche bien. Donc ils mettent des oranges et des mandarines auprès des petits dieux avec des bâtons d'encens. Vous avez jamais vu ça dans un restaurant chinois ou tibétain, et ils font des offrandes aux petits esprits, tout ça. Vous avez le chat qui se gratte l'oreille, là. Vous savez ce que c'est? C'est une petite divinité de la prospérité. Mais moi, je pense pas que Dieu soit un chat, entre nous, hein. Mais est-ce que lui-même, si on les prend entre quatre yeux, on dit, mais vous pensez vraiment qu'il y a une divinité, chat, qui peut vous apporter des clients dans votre restaurant? Eh bien, c'est ce que faisaient les missionnaires. Hein. Ils disaient, réfléchissez, est-ce que vous croyez que cet arbre va vous apporter la prospérité? Pourtant, vous êtes tous émerveillés de voir le film, comment s'appelle le film avec les schtroumpfs? Avatar. Et vous avez l'arbre aux âmes. Et qui n'a pas vu Avatar? Qui a vu Avatar? Alors, vous avez vu? Il y a un arbre où tous les esprits sont réunis. Et finalement, c'est toute la planète qui est une seule âme. C'est du panthéisme. Et à un moment, l'Américain, lui, qui est plutôt croyant d'une divinité personnelle, il demande à la planète, il demande à la déesse, il demande d'intervenir. Et l'autre, en bonne panthéiste, elle dit « Mais Gaga, enfin si c'est pas Gaga, je sais plus comment elle s'appelle, Ewa, elle rassemble tout le monde, quoi, mais c'est tout le monde et personne. » Et le lendemain matin, vous avez tous les animaux qui arrivent et qui attaquent les hélicoptères américains. Et là, l'autochtone dit « Waouh, Ewa l'a exaucé !» Et c'est, vous voyez, on ne peut pas s'empêcher, même dans un film panthéiste, de faire une prière qui est exaucée. Alors que normalement, on est dissous dans l'âme de la planète et voilà, quoi. On est un arbre, on devient un arbre, quoi. Enfin, des branches, ou des petites fleurs. Enfin, à un moment donné, c'est quoi? C'est les graines des oies. Ils discutent tous, voilà. C'est comme dans la guerre des étoiles et les midi-chloriens. Alors, les midi-chloriens, ils en ont parlé premier, deuxième, troisième épisode. Enfin, après, ça faisait rigoler tout le monde, donc ils n'en ont plus parlé. La force. Eh oui, mais c'est quoi la force? C'est quoi une prophétie? S'il y a une énergie cosmique, elle annonce quoi, l'énergie cosmique? Elle pense? Donc vous, est-ce que vous avez une prière vis-à-vis d'un Dieu personnel, paternel, et qui vous a créé à son image? Vous n'êtes pas des énergies. Vous n'êtes pas d'électricité qui passe dans vos cellules, comme le film Lucie. Comment il s'appelle le réalisateur qui a fait Lucie déjà?
Luc Besson.
Luc Besson. Luc Besson est totalement panthéiste. Lui, pour lui, quand il a fait Les Minimoys, il était là, le Arthur, il est là et il doit devenir une pierre. Alors à un moment donné, il y a d'ailleurs où il doit devenir aussi un arbre. Et puis à un moment donné, il y a un oiseau qui lui pisse dessus ou un animal qui passe à côté de la pierre, qui lève la patte et qui lui... Et donc il est tout content, il dit je suis devenu tellement une pierre qu'il a cru pisser sur la pierre. Et c'est une telle obsession chez Luc Besson que dans le film Lucie, je vais pas le troller, excusez-moi, ou le spoilier, qui ne l'a pas vu? Je peux le spoiler? Bon. On est tous de l'énergie, on est tous de l'électricité qui se passe d'atome en atome. C'est ça. La matière, c'est l'électricité. Et donc, en fait, les courants électriques qu'il y a dans les atomes font l'histoire. Donc, à un moment donné, elle est là à New York et elle rentre dans la mémoire de la matière. Et elle voit les siècles passés parce que les impulsions électriques lui racontent les siècles passés. Et à la fin du film, toute l'histoire humaine est dans une clé USB. Tout est électrique. Et donc elle prend une drogue particulière qui développe le cerveau, les interconnexions électriques du cerveau au point de tout comprendre. Et de tout maîtriser par le souvenir électrique de la matière. Et du coup, lorsqu'elle arrive dans une salle d'opération et qu'elle veut se faire quand même opérer la poche de la drogue bleue là, qui n'arrête pas de diffuser et elle commence à devenir trop intelligente. Et donc, elle arrive, il y avait un pauvre bonhomme qui était en train d'être opéré, et les atomes du bonhomme lui transmettent par les atomes de la table d'opération jusqu'à les atomes du sol, jusqu'à elle, qu'il a un cancer. Donc, elle tue le type, elle le balance, elle dit, de toute façon, il avait un cancer. C'est un sac de matière. Ensuite, quand elle remonte la rue de Rivoli, avant qu'elle soit en sens unique absolu avec Anne Hidalgo, qui est plus qu'une seule voix, elle remonte par le trottoir. Donc elle écrase les gens, et là elle a les yeux fixes, et vous avez le commissaire qui est à côté, qui dit c'est quand même pas bien, et elle dit on ne meurt pas vraiment. En fait, elle dissocie des sacs d'atomes. Et ça vous fait rire, mais c'est la pensée profonde de Luc Besson, hein. Et pourquoi il appelle son film Lucie? À cause de l'australopithèque qu'on a trouvé dans une vallée d'Afrique, qui fait d'ailleurs de grosses discussions entre les spécialistes de la préhistoire. Les uns disent non, c'est un singe. D'autres non, c'est un hominidé. Et donc Luc Besson dit voilà, c'est l'évolution par le hasard, par les atomes crochus. Et les atomes s'associent, se dissocient, et comme je vous disais, on a les yeux en face des trous, par pur hasard. Eh bien, comme ça, il est difficile de prier, en effet. Mais maintenant, voyez-vous, la prière, c'est de croire que Dieu est amour, que Dieu est un être personnel. Que si moi j'existe et si je suis en train de vous parler, c'est pas parce que mon cerveau est en activité électrique. J'ai un esprit qui anime mon corps humain. Les animaux n'ont pas un esprit qui aime de manière abstraite et à travers les animaux. Je suis vraiment désolé. Nous sommes des êtres différents. Tout ce que nous faisons le montre, et toutes nos histoires d'amour le montrent. Nous sommes des êtres totalement différents des animaux. Nous avons un corps animal, nous avons des nécessités animales, mais nous avons une vie totalement différente à cause de notre esprit. Et Dieu est intervenu dans l'histoire humaine. Dieu aime la matière. Il aime le soleil, il aime les étoiles, il aime les planètes, il aime les couleurs, il aime toutes les formes qu'il a créées. Mais il aime plus spécialement les esprits, il aime les anges et il aime les êtres humains. Vous allez me dire, mais pourquoi il nous a fait une vie aussi dépendante de la création matérielle? Mais arrêtez de vous poser la question de tout ce qui va mal dans votre vie. Dites-vous que c'est extraordinaire d'exister, d'avoir été lancé dans l'existence. Même s'il y a des moments dans votre vie qui sont tristes, des moments de dépression, n'est-ce pas? Puisque c'est de nos jours, on travaille comme des dingues et le corps finit par être épuisé et notre âme finit par n'en plus pouvoir d'enregistrer tous ces faits, ces événements, toutes ces choses à prévoir, toutes ces choses à surmonter, à accomplir. Et à un moment, c'est le burn-out. Eh bien, voyez-vous, c'est bien parce qu'on se soucie excessivement de ce qui nous arrive qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Parce que toute vie est une merveille. C'est... Si vous voulez, Dieu pardonne, Dieu est bienveillant avec ceux qui tombent, si vous voulez, dans un délire de tristesse ou autre. Et il les accompagne et il envoie providentiellement des personnes pour les consoler, pour les soutenir. Mais, voyez-vous, la vie humaine est exceptionnelle. Et Dieu est exceptionnellement présent et proche. C'est pour ça que quand vous comprenez l'incarnation, c'est vraiment Dieu s'est fait homme. Dieu a prouvé qu'il aimait sa création. Et Dieu a eu des petites mains, Dieu a eu un petit corps, Dieu a eu un vrai corps. Et c'est la raison pour laquelle les saints et les saintes, lorsqu'ils étaient intimement dans la foi, dans la présence de Jésus dans l'hostie, quand ils communient, ils prennent Jésus dans leurs bras. C'est une foi profonde dans la présence de Dieu. Et prier, c'est parler à quelqu'un dont on sait qu'il nous écoute. Et lorsqu'on veut restreindre la prière à Dieu, c'est couper la possibilité de parler à d'autres personnes. Attendez, est-ce que vous parlez qu'à une seule personne dans votre vie? Et vous considérez que c'est fou de parler à... Vous allez dans votre entreprise et vous parlez qu'au patron. Les autres, vous leur parlez même pas. C'est une folie de parler à d'autres personnes que le patron. Là, on vous dit, vous êtes un peu fatigué quand même. Eh bien, quand vous avez des personnes qui vont dire, on ne parle qu'à Dieu, on ne parle pas à ses amis, on ne parle pas aux anges, on ne parle pas à la Vierge Marie, on ne parle pas à Joseph, on ne parle pas aux saints, on ne parle pas aux âmes des défunts pour leur demander de prier pour nous. Sinon, c'est de la sorcellerie. Sinon, c'est du paganisme. Mais jamais Dieu ne nous a demandé de ne parler qu'à lui. Et donc la prière, c'est pas seulement à Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez parler aux autres. Moi, je vais pas avoir de longues discussions avec les défunts de ma famille ou avec les personnes que j'ai connues, aimées, qui sont mortes. Mais je vais avoir des paroles avec eux. Et moi, j'ai épuisé 3 confesseurs, comme je vous épuise chaque jeudi soir. Et ils ne pouvaient pas parler comme vous. Le père Jean Froideval, le père Jean Soulier et le père Jean-Pierre Fournier. Depuis 10 ans que je suis à Paris, j'ai eu 3 confesseurs. Et comme je me confesse plutôt à des personnes, à des hommes d'expérience, des hommes âgés, ils avaient tous presque 78-80 ans à chaque fois. Et donc, j'en ai perdu 3. Ils sont morts à 82-84 ans. Et si vous voulez, pendant 4-6 ans, je me suis confessé à l'un, à l'autre. Et donc, vous avez une relation d'amitié qui se forme. Et donc, si vous voulez, je leur demande de prier pour moi auprès de Dieu, parce que je les connais et je pense pas qu'ils soient morts dans la haine. Et vous avez peut-être connu quand même un grand-père, une grand-mère à qui vous pouvez demander de prier pour vous. Ou une personne bonne et sainte, une sainte personne, vous voyez. Eh bien, la prière, c'est ça aussi. C'est vraiment, vous voyez, le contact avec l'invisible et qui est pourtant concret. Alors, pour terminer,